sur France Inter.
Bonjour, chers écouteurs.
Vous êtes passionné par l'innovation et la création sonore ? Participez au concours lancé par Radio France, une création pour nouveaux sons.
Hello, hello.
Téléchargez des éléments sonores sur le site de sons spécialisés Nouveaux Sons.
Vous m'appelez quand c'est fini.
Mixez-les selon vos envies et tentez de remporter le grand prix Nouveaux Sons délivré par le jury de Radio France. Plus d'informations sur nouveausons.radiofrance.fr.
France Inter.
La voix est libre.
Vous écoutez France Inter, il est 15h04. Tout de suite, là-bas, si j'y suis, avec Daniel Mermet.
Moi, je trouve ça génial, le mur des cons. Alors ça, c'est jouissif. Ça les met en colère. Alors ça, c'est trop beau, le mur des cons. Et en plus, c'est trop, parce qu'il y a des têtes de cons sur ce mur. Il y a des têtes de cons. Je rajouterai bien quelques... Alors ça, c'est excellent. Alors ça, j'adore me faire rire comme ça. J'aime. Oh, le mur des cons, ça ne plaît pas. Oh la vache.
Alors, Jean-François Copé se plaint qu'il n'y ait pas de cons de gauche sur le mur des cons. Mais mon Jean-Finou, t'as rien compris. Il n'y a pas de cons à gauche parce que la droite les a tous piqués, comme elle fait avec tout le reste. C'était Michel Le Lion.
Vous vous rendez compte, ce mur des cons, là, dans le local syndical de la magistrature. Imaginez la taille du mur. S'ils ont mis tous les cons qu'on a, notamment en politique et au pouvoir, mais ça doit être un mur démesuré, alors que la justice n'a pas de moyens. Elle craque dans ses locaux. Ah, c'est scandaleux. Ou alors peut-être que les photos étaient toutes petites, ou alors qu'ils ne les ont pas tous mis.
C'est fou ce que les mots peuvent avoir de l'importance quelquefois. Ce matin, j'entends un membre du gouvernement qui dit ceci, je cite, « Nous ne faisons pas de l'austérité, mais du sérieux budgétaire. » Eh bien, avec ça, les Français sont rassurés.
J'en ai marre d'être une assistée, c'est pas supportable. Voilà, tous ces riches qui me font vivre depuis toujours, c'est absolument pas supportable. C'est quand même, j'ai eu le privilège de laver leurs assiettes et leurs casseroles quand ils venaient manger au restaurant. J'ai eu le privilège de travailler dans leurs usines. J'ai eu le privilège de gratter la terre pour qu'ils aient à manger. J'ai eu ce privilège, c'est pas supportable. Il faut abolir les privilèges et je refuse. Je vais, moi aussi, je veux faire vivre les autres. Je veux arrêter cet égoïsme absolument insupportable. Je veux des outils pour faire vivre les riches. Je veux de l'argent. C'est l'argent l'outil. Bon, ben, de l'argent. Et enfin, ils pourront se reposer.
5 secondes d'info à France Inter ce matin pour annoncer l'effondrement d'une usine à Dakar. Hier soir, on a annoncé 80 morts. Ce matin, le double et plus d'un millier de blessés. Ces couturières ne voulaient plus rentrer dans l'usine face au danger qu'elles présageaient. Les patrons ils y ont poussé comme des bêtes, nous disent les survivantes. Mais les patrons ne sont pas des terroristes. L'enquête va être bâclée. Ils n'iront pas en prison. Qu'est-ce que la vie au Bangladesh ? Le salaire le plus bas au monde, 30 euros. Un gouvernement qui envoie la police matraquer les contestataires. Que vont devenir toutes ces familles qui n'avaient que le revenu de ces petites mains ? Marie-Paul, au revoir.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Simplement une astuce pour se rappeler si on met la fourchette à gauche ou le couteau à droite, etc. Il y a un truc tout simple, à condition quand même qu'il y ait un minimum de culture, c'est-à-dire connaître son alphabet. Fourchette, ça s'écrit avec un F. La lettre suivante dans l'alphabet, c'est G. F gauche. Et alors, gag, ça marche aussi pour le couteau. Couteau, c'est un C, pas un K. Et la lettre suivante, c'est un D. Couteau à droite. Fourchette à gauche, couteau à droite. Point barre. Voilà, à bientôt, au revoir.
Bah maintenant, j'aurais plus d'excuses hein, pour mettre le couteau.
Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur ?
Ah, fourchette à gauche, couteau à droite, je vais essayer de m'en souvenir au moins jusqu'à ce soir. Merci en tout cas pour vos messages, chers AMG. Une chose à dire aujourd'hui, on est secoué, Radio France, mais bien au-delà de Radio France, par la disparition de Philippe Chaffanjon, le patron de France Bleu. On a dit beaucoup de choses sur lui et beaucoup de choses sont absolument justes. Avant d'être un excellent patron, Philippe Chaffangeon était un excellent reporter. Il avait effectivement fait tous les métiers du journalisme et sans doute le plus important, celui de reporter. On l'avait croisé à deux reprises en 94, je me souviens, au Rwanda. C'était exactement à Bujumbura. Et puis ensuite, en Tchétchénie, je crois, en 96, à l'époque, il travaillait pour RTL. C'était un excellent reporter, comme on les aime à la base, si j'y suis, de ceux qui pensent que il faut être là, absolument, physiquement, là où ça se passe, qui ont des souvenirs de leur enfance, où ils lisaient Tintin en disant ah, « ce sera mon tour un jour », et qui se disent « si je suis là où ça se passera pas comme ça ». Voilà, hommage donc à Philippe Chaffangeon. Aujourd'hui, autre chose d'important que cette auditrice vient d'évoquer, c'est l'effondrement de cet immeuble à nouveau dans la banlieue de Dhaka, au Bangladesh. 200 morts des ouvrières et des ouvriers du textile, de la confection. C'est quelque chose qui arrive maintenant de façon continue, ces effondrements d'immeubles au Bangladesh, sur ces ouvrières, pour la plupart des ouvriers aussi, qui sont autour de 40 dollars par mois pour fabriquer, coudre les vêtements que nous portons. Le Bangladesh étant le deuxième producteur mondial de vêtements. Il y a là une responsabilité extrêmement grave des grandes marques de vêtements qui sont donneurs d'ordre dans ces entreprises. Alors, il y a des ONG à travers le monde qui soutiennent les salariés et les victimes, là en l'occurrence. Il y a également des syndicats, un syndicat surtout au Bangladesh qui se bat pour la défense des conditions de travail de ces ouvrières et de ces ouvriers. Mais il y a encore, j'y insiste, une responsabilité des grandes marques de vêtements, de ceux que nous portons chaque jour. Il y a du sang sur nos fringues. On a fait des reportages là-bas il y a quelques années. On a rediffusé ces reportages il n'y a pas si longtemps. Et on voit que ça continue en s'aggravant, puisque là, c'est plus de 200 morts et des milliers, des centaines de blessés dans cette catastrophe. Aujourd'hui, on continue avec la joie de servir. On va avoir les chiffres du chômage aujourd'hui. On sait par avance qu'ils sont catastrophiques. Et là-bas, si j'y suis, eh bien, comme d'habitude, nous avons des idées pour vous. Nous sommes un service public. On va essayer de vous sortir de là, de ce chômage. Surtout si vous êtes diplômé, si vous avez bac plus 4, plus 5, si vous êtes ingénieur, si vous êtes prof de philo ou diplômé de l'école du Louvre. On a un très, très bon boulot pour vous. C'est servante, gouvernante, majordome, jardinier, chauffeur, valet, etc. Il y a de plus en plus de riches dans notre pays. Et ces riches, ils sont tout à fait prêts à vous embaucher, à condition évidemment que vous présentiez le profil qui convient. C'est bien normal. Pour ça, il y a des formations. On a vu hier avec Anaël Verzo. Ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, la suite, à quoi ressemblera votre prochain job? Si vous nous écoutez jusqu'à 16h, on commence avec les reportages, la deuxième partie des reportages que vous avez laissés sur la boîte vocale de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel Mermet, bonjour à toute l'équipe. Je vous ai déjà laissé deux messages au sujet de l'Hôtel Dieu et je suis membre de la coordination nationale hôpitaux maternité de proximité. Des nouvelles bien plus alarmantes encore en ce qui concerne le CHU Saint-Antoine. Ils sont en train de vider les services. Des médecins-chefs sont partis écœurés. C'est bien avancé comme projet, la générale de santé, la fameuse générale de santé qui compte 145 cliniques, a prévu de racheter les bâtiments. Alors c'est pas nouveau cette affaire parce que c'était déjà un projet avancé sous Sarkozy, ça remonte à 3-4 ans. Mais là pour le coup, il faut préciser que notre ministre de la Santé et notre directeur d'agence régionale, c'est-à-dire M. Claude Évin, tous les deux, sont en train de mettre en œuvre tout ce qui avait été prévu auparavant. Ils n'ont pas été élus pour ça, c'est à se demander pourquoi. Le CHU de Saint-Antoine, si on laisse faire, va bien être vendu et racheté par la Générale de Santé. Merci.
Ouais, salut à tous, c'est pour vous indiquer que vendredi soir, à partir de 19h, il y a le repère de Tourette aux latitudes derrière Intermarché sur le canton de Fayence. On va parler de l'avenir du domaine de Tassy. Il faut à tout prix, il y a un collectif d'associations qui vient de se créer dans le but d'essayer de faire racheter par la communauté de communes le domaine de Tassy qui risque sinon de partir à la spéculation. Les gens du canton de Fayence connaissent ce domaine qui a toujours été mis à disposition des associations. Et puis on parlera aussi du nouveau journal du pays de Fayence, un journal gratuit, sans pub, sans subvention, qui tire à 8000 exemplaires, qui a 15000 lecteurs sur un canton qui en compte 25000. Je vous rappelle que le principe, c'est de faire un journal pour que les gens du canton et les associations du canton écrivent dedans. Ciao, viva, portez-vous bien. Vendredi, 19h, latitude, chez Pascal. On se régale, on boit un coup, on discute et on refait le monde.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. Et maintenant, il est question de faire une loi d'amnistie pour des délits qu'ont commis certains syndicalistes. Eh bien, puisque la loi d'amnistie pour les délits financiers, puisque la violence financière peut s'exercer avec une amnistie totale, je ne vois pas pourquoi il y aurait un traitement inéquitable par rapport aux syndicalistes. À moins que ceux qui commettent des actes vandales contre l'industrie, avec la finance, etc., soient également punis. Continuez, les syndicalistes. Continuez.
Alors, Sébastien, est-ce que cette cuillère peut se mettre à table ?
Non.
Non, pourquoi ?
Ça, c'est une cuillère à thé.
Oui, c'est ça. Et la fourchette à gâteau se mettait à la table.
Oui.
C'est votre dernier mot ?
C'est-à-dire que...
Faites-moi le positionnement des couverts à dessert à la française.
Alors, non, effectivement.
La bonne formule, c'est ça. C'est le couteau au milieu et les deux couverts croisés. Donc, la fourchette à gâteau, à votre avis, vous continuez à dire que c'est effectivement qu'on pourrait la mettre ? La fourchette à gâteau ?
Non.
La fourchette à gâteau ?
Oui, si on peut la mettre, à la place de celle-ci, ça dépend de la taille de l'assiette éventuellement, madame.
Je réitère, est-ce qu'on les met à table ?
Non, madame.
Bon, c'est non. Est-ce que vous en êtes sûre ou pas ?
Oui, madame.
Bon, donc la fourchette à gâteau à table, c'est
non.
Non, oui.
Non.
Non, oui. La fourchette à gâteau, c'est uniquement utilisé quand il y a un goûter dans une maison.
Salut, c'est Daniel Mermet. C'est là-bas que j'y suis avec Anaël Verzo. La joie de servir ou le bonheur dans la soumission.
Flight number 2, arriving from New
York. Oh bah oui, je vais être content toute la journée d'une nouvelle personne, toi.
Je prépare le repas pour ce midi, en fait, pour les enfants, qui on va aller chercher vers 11h20. Mm-hmm. Donc, ils rentrent de l'école pour manger le midi.
Vous avez comme une tunique noire avec écrit Elia sur la tunique.
Oui. C'est une tunique, c'est pour protéger un peu ses affaires personnelles quand même, pour quand on travaille. Et puis ça se permet de se mettre dans le rôle en fait. Du coup, quand je pars, je peux enlever la tenue et je retourne dans ma vie normale de tous les jours.
Vous mettez de la musique parfois dans la journée ?
J'écoute la radio en fait, normalement. Donc j'écoute diverses radios, repas, France Inter de temps en temps, France Info aussi, mais c'est un petit peu déprimant des infos toute la journée. Sinon c'est très solitaire comme travail, donc un bruit de fond c'est très agréable. Le chien et la radio, c'est ma compagnie de la journée quand je suis toute seule.
Ça vous plairait, hein ? Eh, ça vous plairait. le jet privé, pas mal, hein, on arrive. Le palace aux Caraïbes, les valises des plus grandes marques, les lunettes noires, les parfums, le champagne. Agréable comme tout, non, c'est la bonne vie, la vie rêvée. Privilège. Ça vous plairait ? Mais écoutez, c'est pas difficile, hein. C'est pas difficile du tout. Sauf que là, c'est vous qui allez porter les valises, c'est vous qui allez passer un petit coup, un petit coup de nénette sur le capot de l'auto, et c'est vous qui allez nettoyer la baignoire jusque dans les recoins. Ah oui! Parce que la madame et le monsieur, les riches en général, sont des gens assez malpropres. Il faut toujours être derrière, il faut toujours passer derrière. Vous savez, c'est comme au cirque. Celui qui nettoie derrière les chevaux, des chevaux de race. Et oui, c'est nécessaire, il faut le faire. C'est ça un petit peu domestique. C'est une vieille histoire, hein, domestique. Oula, on va retrouver... Octave Mirbeau, vous vous souvenez, le journal d'une femme de chambre? Ah oui, ça c'est des scènes et des moments inoubliables, un roman inoubliable et un film qui ne le fut pas moins. Jeanne Moreau, mais oui, vous vous en souvenez. Ces personnages occupent une grande place dans notre imaginaire. La soubrette, un fantasme. Qui vient d'où d'ailleurs ce fantasme? De quoi il est fait ce fantasme? Est-ce qu'il n'y a rien à dire sur les fantasmes? Est-ce qu'il n'y a rien à dire sur ce rapport de domination qui n'aille du social à la libido? Nombreux sont ceux qui ont fait tomber cette frontière, cette muraille extrêmement fine qui passe de l'un à l'autre comme si dans la domination il y avait on ne sait quel plaisir non dit. Eh bien tout ça, ça revient, figurez-vous. Des gens s'étaient attachés à réduire les inégalités et les inégalités reviennent. Les riches sont de plus en plus riches et de plus en plus nécessaires. C'est ce qu'on nous a dit hier dans l'émission. Et heureusement qu'ils sont là, les riches, car que font les riches? Eh bien, donner du travail aux pauvres, bien sûr, s'ils sont là pour ça. Et puis, on a bien compris, il faut faire très attention aux riches qui sont en train de partir, de quitter ce pays. Ce sera le déclin de ce pays. Car quand le gros maigrit, le maigre meurt. Alors c'est avec une de ces gouvernantes que nous allons passer le début de cette heure, quelque part à côté de Paris, à Saint-Cloud. Octave Mirbeau parlait de la pourriture des nantis.
C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les seaux. Je manie le balai et puis le torchon. Je fais la pâté pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas de pieds dans le même sabot. J'ai de la vaillance, plus qu'il n'en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est une mijaurée, qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison, je compte les bouteilles et les chapons, et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au bal, l'autre au cimetière. Oh, qui c'est qui sue, même en hiver, c'est moi. Pour me consoler, j'ai été trinqué avec Nicolas, le riche meunier. On m'a dansé sous le lampion, le flac qui tripote mon jupon, pour voir si c'est pas du coton. Oh dame, c'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Moi je le laisse faire, je pense au moulin. Qui corra l'homme, qui corra le grain, c'est moi. Je serai bon rosière, mais je serai patronne et je me maîtrise un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage, réjouis les veaux. Qui sera l'invité du château? C'est moi.
Oui, bonjour, c'est Anaël.
Bonjour.
Merci. Et le portail s'ouvre automatiquement devant moi. J'entre, il y a un jardin, deux transats. Une belle maison, je crois qu'elle fait 200 mètres carrés. Ah, bonjour.
Aline.
Ça va, vous étiez en train de travailler?
Oui, j'étais en train de m'occuper de la salle de bain d'une des enfants. J'ai prévenu, il y a le chien. Elle est très démonstrative. Tu fais attention, Lily, tu es gentille. Hein.
on rentre dans la maison.
Voilà, c'est la maison dans laquelle je travaille. On va pouvoir faire le tour de la maison.
À droite, il y a la cuisine. Là, c'est ce qu'ils appellent le jardin d'hiver. C'est un prolongement de la cuisine où les enfants mangent. Il y a le bureau de monsieur qui est là, qui vient d'être fait.
Ah oui.
Il est juste magnifique, ce bureau.
C'est un bureau ancien.
Je ne sais pas si c'est ancien ou s'ils l'ont fait faire comme un ancien. Donc là, c'est un peu plus le bazar. C'est la chambre de la plus grande. Elle a sa propre salle de bain.
Ça, oui. C'est pour elle.
Oui, c'est juste sa salle de bain à elle.
Et elle a une douche avec des jets.
Oui, c'est une belle douche. Un gros jet et une petite douchette.
Elle a quel âge ?
Elle a 11 ans. Elle a, enfin, elle a une superbe chambre et une superbe salle de bain pour
c'est
pour
elle. Les enfants un petit peu plus hygiéniques quand même. Là, vous allez nettoyer la salle de bain.
Oui, là, c'est important de, que quand elle arrive dans sa salle de bain, elle voit quand même que c'est propre. Ça sent le bon, ça sent le propre et tout. Voilà.
Ah oui, c'est un petit coup, mais c'est un gros coup quand même. Là, vous êtes en train
là,
de...
Là, j'ai vu qu'il y avait des traces de savon dessus, donc quand elle a pris sa douche hier, elle a dû mettre du savon. Donc si j'enlève pas le savon maintenant, demain, ça va coller.
Du coup, vous faites même les vides de la douche tous les jours?
Quand il y a du savon, sinon, non. Et puis sa douche a tendance à s'encrasser très facilement, donc même un petit coup, du coup, ça demande quand même un minimum.
Il y a combien de pièces, Aline, dans la maison?
11 belles pièces de même. Donc là, on monte à l'étage. Donc là, c'est la salle de bain des parents.
Et il y a une baignoire à massage, hein ?
Oui. Ils l'utilisent très peu, ce que je trouve dommage, parce que c'est une magnifique baignoire. Donc je passe mon temps à enlever la poussière de la baignoire. Toutes les semaines.
Et il y a une douche, ils ont avec une des galets.
C'est très très embêtant à nettoyer les galets. Et c'est la buanderie de monsieur, qui est un peu envahie d'affaires de madame, mais c'est la buanderie de monsieur.
Ah oui, c'est carrément une pièce avec que des chemises, des pantalons, qui sont bien rangés, les cravates,
oui, c'est,
entre elles,
qui sont suspendues. Affaires de travail, affaires des tantes.
Ah oui, il y a les affaires de travail d'un côté.
Et les affaires pour le week-end, le soir, de l'autre côté. Et donc, les affaires de madame débordent un petit peu, puisque en fait, dans la chambre, il y a deux grandes armoires qui débordent de vêtements. Elle met les belles robes ici, dans le dressing.
Ah, il y a une fourrure, hein. Mm-hmm.
C'est les manteaux de madame, en fait. Elle travaille un petit peu dans le monde de la création de vêtements, donc elle en a beaucoup. Et les valises pour les voyages.
Oh là là, il y en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 valises à peu près. Hein.
Parce que le papa et la maman, tous les deux, avec leur travail, ils voyagent un petit peu quand même.
Ouais.
Donc, faut qu'ils aient des valises. La chambre des parents.
Ah, c'est un lit, comment on appelle ça ? Baldaquin ?
Un lit à baldaquin.
Et le bureau ?
Le bureau de la maman, qui est un peu en bazar, mais je n'ai pas le droit d'y toucher, donc je laisse son bazar. Il y a des choses comme ça qu'il faut apprendre à respecter. Au début où j'étais là, je n'avais pas le droit de m'occuper du linge de madame et de monsieur. Elle voulait à tout prix le faire, et au bout d'un moment, ils se disent oui, bon, c'est bon. Il faut comprendre aussi que des fois, il y a des gens qui sont un peu réticents à ce qu'on s'occupe de leurs affaires, par exemple des soutiens-gorge, des culottes, des chaussettes, c'est...
Et là, il y a un mannequin avec des rubans Chanel.
Oui, c'est à madame, c'est la décoration de la chambre. Je referme bien les boîtes à bijoux. Hop. Parce, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a des beaux bijoux dedans.
Ah oui ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est, cette télécommande ?
Dans toutes les chambres, il y a la clim. En fait, j'ai le droit, quand il fait chaud, puisque je fais aussi beaucoup de repassage, à cause des chemises de monsieur, j'ai le droit d'aller dans la chambre de la plus jeune pour faire mon repassage avec la clim quand il fait chaud.
On n'a pas vu le salon encore.
Oui, c'est un salon salle à manger qui va être en travaux bientôt. Ils vont l'agrandir.
Il y a des tableaux au mur.
Il y a des beaux portraits italiens qui viennent... Je crois qu'ils les ont achetés en Italie, ils ont fait venir.
Des portraits de quel siècle ?
Je crois que c'est du 18e, ce que m'a dit madame. Ça, c'est un cadeau du papa de madame.
Ah oui, c'est très moderne, là.
Donc voilà, ils ont un beau salon avec une petite cheminée. Oui, on t'a vu. Et tu vas rester sagement ici, Miss Margaret. Hop, je la fiche et tout, les clés. Et ça, c'est le porte-monnaie de travail avec l'argent et les cartes pour faire les courses pour la famille. Pour éviter que j'ai de l'argent, trop d'argent sur moi en permanence, en fait, ils ont ouvert un compte sur lequel ils virent la somme et moi, je dépense avec la carte bleue.
C'est une école privée ou une école publique ?
Non, non, c'est une école publique. Les écoles privées à Saint-Cloud sont de l'autre côté. Et c'est des écoles catholiques.
Et eux ne sont pas catholiques ?
Je sais pas. C'est le genre de questions qui ne s'abordent pas facilement. Le genre de choses qu'il faut apprendre à faire avec et ne pas donner ses opinions. Que ce soit politique ou religieuse ou en matière d'éducation aussi.
Ah oui.
Faut se conformer à ce que demande la famille, même si on n'est pas forcément d'accord.
Vous pouvez quand même parler de politique avec eux ?
Non, j'aborde pas le sujet parce que je sais pertinemment que c'est des personnes assez fortunées, de droite, et c'est ce qui n'est pas forcément mes opinions, donc non, on parle pas politique. Enfin, de temps en temps, quand il y a un truc, vu que des fois le matin quand j'arrive, il y a la radio qui est allumée. Vous avez entendu l'affaire Cahuzac, hein, j'en étais sûre. Hein. Donc du coup, faut acquiescer, ah oui, mais faut pas donner son avis, quoi, forcément.
Mais ils doivent bien se douter que vous n'êtes pas toujours d'accord avec eux.
Oui, bah oui, non, mais s'ils me demandent pas d'être d'accord, mais il faut faire son travail correctement.
Ça fait partie du travail, en fait.
Exactement.
On passe devant une agence immobilière.
Oui, une agence immobilière de luxe.
De luxe?
Oui, oui. Ils vendent des belles villas, sûrement dans le coin.
Ça s'appelle Luxury.
Ouais, c'est pour ça que je sais bien que c'est une agence de luxe.
Est-ce qu'il y a une tenue à avoir en tant que gouvernante?
Ça dépend des familles. Moi, je suis dans une famille où ils sont très cool. La maman n'accepterait pas que j'arrive en tailleur, pantalon, chemise et tout ça en dessous, parce qu'elle déteste ça. Faut être habillée correctement. Faut pas venir en jean, par exemple. Voilà, quoi. Ça se fait pas.
La hiérarchie aussi à respecter.
Exactement. Même si vous tutoies, faut jamais les tutoyer, par exemple. C'est une marque de respect de les vouvoyer.
Ouais, là, il y a des lycéens qui arrivent.
Lycéens qui essayent d'avoir des discussions de grands.
Ils parlaient de quoi?
Je sais pas, ils parlaient d'insécurité. C'est pas un endroit où il y en a vraiment ici. Ils habitent pas mon quartier. Je crois que ce serait pas juste de la peur. J'habite dans le 18e, donc il y a peu de temps, ils ont fait la zone de sécurité prioritaire. Maintenant, j'ai des personnes un peu louches qui me disent bonjour. C'est pas la partie 18e bobo et la butte de Montmartre. Je suis plutôt porte de Clignancourt. Donc,
Vous avez fait quoi comme études?
J'ai fait l'école du Louvre. En fait, j'ai fait histoire de l'art et archéologie.
Ça n'a rien à voir?
Non, ça n'a rien à voir. Et c'est un secteur qui est très très intéressant. On apprend beaucoup de choses, on a une bonne culture générale, mais ça n'a pas beaucoup de travail en fait. À moins de connaître par piston. Donc on tente le concours de conservateur, assistant de conservation une fois, deux fois. Au bout de trois fois, il y a tellement un peu de place, au bout de trois fois, quand on n'est pas pris, on dit il faut que je retrouve autre chose.
Et votre milieu d'origine?
Classe moyenne, quoi. Milieu standard de la plupart des Français. Ouais. Non, c'est vrai qu'au départ, quand on arrive ce genre de milieu avec des enfants qui lancent leur pull en cachemire par terre et que le chien dort dessus, ça fait un peu crier quand même, au fond de soi-même. Mais faut apprendre à relativiser les choses et on n'est pas là pour juger les gens.
Qui sont-ils les gens qui sont riches? Sont-ils plus que moi qui n'ai rien? Je cours, je vais, je vire, je viens. J'ai pas peur de perdre ma fortune. Je cours, je vais, je vire, je viens. J'ai pas peur de perdre mon bien.
Moi, je suis plus grande que toi. Moi, je pèse
26 kilos.
Et toi?
J'ai 9 ans, je pèse 24 kilos. Il a 5 ans.
26 kilos. C'est vrai, c'est même mon frère qui me l'a dit quand je me suis pesée.
Ah oui, mais vous vous pesez tous les matins?
Oui, quand on prend la douche.
Que ces chenapans vont prendre dans la salle de bain de leurs parents.
Eddy, calme-toi.
Comment elle obéit alors?
Il faut soit faire semblant qu'on a un objet dans la main pour lui donner une récompense, soit on lui dit d'un ton très sévère.
Assis.
Eddy, assis.
Assis. Mettez la machine.
Je plie le linge. Vraiment, j'avais tout ce qu'il faut pour plier le linge, mais
la tablette a pas tenu le coup.
C'est fini, Romain ?
Oui.
Tu préfères le violon ou le piano ?
Le violon. Parce que c'est mon cours principal et le piano, je le fais de tête.
Et qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard comme métier ?
Je ne sais pas encore.
Tu réfléchis ?
Oui.
Tu hésites entre quoi et quoi ?
Entre grand joueur de foot et violoniste.
Alors l'avantage aussi, si vous, amis riches, si vous voulez employer du personnel comme celui-là, comme Aline par exemple, eh bien vous allez bénéficier d'une déduction fiscale. C'est chouette, non ? C'est un dispositif qui date de 2005 et lancé par M. Borloo, le plan Borloo, qui accorde des réductions d'impôts pour l'emploi d'une femme de ménage qui était, à ses yeux, à l'époque, la recette magique pour lutter contre le chômage. Alors le problème, c'est que cette déduction fiscale ne fait pas de différence entre l'emploi pour une personne âgée ou une personne handicapée en situation de dépendance, ou bien, comme on le voit là, le service à des gens extrêmement aisés. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est ce genre de disposition fiscale qui est une machine à creuser un peu plus les inégalités. Ça n'en a pas l'air. C'est peut-être pas très considérable. Enfin, ça fait partie de ces mesures qui favorisent le retour à la domesticité.
Le ménage, c'est basique chez moi, parce que je peux pas faire du ménage en permanence ici et faire du ménage à chez moi tout le temps. C'est pas possible. Sinon après, je pense qu'on développe des tocs après.
Bon voilà, c'est pas
aussi bien propre et rangé que chez... en ce moment, voilà.
Que
chez ici, voilà.
C'est la pause.
Oui,
on lit le journal. La une de Libération, patrimoine, la fin d'un tabou. Et la une de Luma, les défis de Maduro au Venezuela. Et là, vous avez le Parisien.
Le Parisien. 38 minutes, 37 maisons, 27 appartements, 40 voitures, 2 bateaux et 3 vélos. C'est pareil, c'est sur le patrimoine des ministres.
Ça, c'est vos journaux.
Oui, c'est les miens, oui. C'est les miens, ceux-là.
Ça brille déjà.
Oui, mais il y a des poils de chien partout. On m'a appris à voir les détails, donc je sais que ça brille. Mais je sais, par exemple, qu'il y a de la poussière là-haut.
Vous, ce qui vous intéresse dans le métier de gouvernante, c'est quoi ?
Le contact avec les enfants. Le ménage, ça fait partie du travail. C'est important de se remettre en question par rapport aux gens pour qui on travaille. Qu'est-ce qui leur ferait plaisir que je fasse, par exemple ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient bien avoir comme surprise en rentrant le soir. Par exemple, la dernière fois, j'ai re-rangé les chemises de monsieur parce qu'elles n'étaient plus dans l'ordre, à force de les mettre comme ça. Et c'est juste des petites touches comme ça qui montrent qu'on s'occupe d'eux, en fait. Enfin, on porte attention à ce qu'ils font. Et trace de dentifrice sur le miroir.
Quel âge, Aline ?
J'ai 32 ans.
Ouais.
32 ans. Je fais ce métier depuis 5 ans maintenant.
Ils vous font confiance, hein ?
Oui.
Parce que tout est là, tout est exposé, les bijoux, l'argent, l'intimité aussi.
Ben, c'est une des choses premières qu'on apprend dans son métier, c'est que on ne raconte pas ce qu'on voit dans la famille, on ne raconte pas. Il faut savoir faire la part des choses. Je suis là pour travailler pour eux, je ne suis pas là pour profiter de leur maison ou des trucs. C'est mon lieu de travail, c'est un lieu de travail quand même assez agréable. C'est joli et tout, ben, c'est à eux, ils ont travaillé pour l'avoir, donc voilà.
Vous les respectez beaucoup ?
Oui, ben oui, c'est important de respecter les personnes pour qui on travaille, même si on ne fait pas partie véritablement de la famille.
Ils vous ont déjà invité à dîner ?
Alors non, et c'est le genre de choses qu'il faut refuser. Un café pour discuter du travail ou un café parce que c'est ma pause et tout s'ensuit et tout, ok. Mais inviter à dîner, non, faut pas. Faut pas accepter ce genre d'invitation parce qu'après c'est, on passe plus dans la sphère professionnelle, on passe vraiment dans la sphère privée quoi.
Ça doit être dur parfois quand même, non?
Ça dépend. Ça, il y a des, y a des semaines qui sont plus dures que d'autres, il y a des jours qui sont plus durs que d'autres. On vit pratiquement qu'à travers la famille.
Du matin au soir, il faut courir dans l'escalier, le monter, le descendre et le monter. Au ding-ding oppressant de la clochette qui sonne et qui ressonne et qui résonne et qui ordonne. Pas une minute de répit, il faut croire que la patronne ne peut rien faire sans sa bonne. Un coup pour aller l'habiller, deux pour le petit déjeuner, c'est parti pour toute la journée. Pour les affaires à repasser, pour les chaussettes de monsieur, pour les chapeaux ou les cheveux. Pour finir un sourire pincé en guise de vague, merci madame, pense que ça suffit. Maudite clochette et maudit métier, je fais la soubrette dans les beaux quartiers. Quand j'entends sonner, je suis toujours prête, modeste et discrète, serviable et zélée, en un mot, parfaite.
Maudite clochette.
Je travaille depuis 93, comme gouvernante.
Comme gouvernante, on peut dire de luxe.
Oui, j'ai démarré dans un château dans le sud-ouest de la France, pour des aristocrates anglais. Et j'ai continué dans ce haut de gamme. Pour moi qui suis née dans la Seine-Saint-Denis, ça a été un peu un choc des cultures.
Vous venez de quel milieu social? Quand vous dites je viens de Seine-Saint-Denis...
D'un milieu, je dirais pas pauvre, mais mon père travaillait au Halles comme vendeur et ma mère était femme de service dans une école.
Vous avez travaillé dans ce château pendant combien de temps?
J'ai travaillé dans ce château pendant 8 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait vivre comme ça, dans l'argenterie, dans les... C'était difficile, c'était de longues journées, mais ça m'a stimulée même intellectuellement, parce que je voyais de jolies choses, je voyais de jolis meubles, je voyais de jolies toiles, des toiles de maître. Bon, puis il y avait des choses aussi, il y a des choses qui étaient drôles. J'ai découvert des gens qui étaient complètement dans leur monde, dans une espèce de tour d'ivoire. Et qui ne savait pas ce qu'étaient les pauvres. Mon employeur, pour parler des gens, quand c'était une situation pauvre, disait que c'était exotique. Elle ramenait la pauvreté à l'exotisme.
Ils en savent, elles en savent. Ces personnes-là, ces femmes-là, quelqu'un comme Martine avec qui nous... entamons cette conversation, elle en sait des choses sur la société, sur les inégalités, sur le monde, le sien, et puis celui pour lequel elle a travaillé durant des années. Et on se dit, ah mais alors c'est formidable, on va aller voir ses domestiques, ses anciens domestiques, on va savoir comment fonctionne exactement notre monde. Là, c'est vraiment des sociologues du naturel. C'est pas toujours aussi facile, parce que dans les personnages de valets, par exemple, de domestiques, de majordomes, on a la figure du majordome plus noble que son patron. On voit ça dans la littérature, dans le cinéma, et puis dans la vie aussi, bien sûr. C'est que, à force de se dire qu'il faut se conformer, qu'il faut se soumettre, qu'il faut pas... Et on finit par prendre goût à tout ça et se laisser imbiber soi-même par tout ce monde et récupérer de cet immense prestige quelques miettes pour soi-même et finalement approuver ce système. Et si jamais, hasard bien rare, mais qui peut survenir, fait que le domestique devient à son tour maître, si la gouvernante devient maîtresse, il n'est pas du tout évident qu'elle se comportera d'une façon fort différente du maître, de la madame ou de monsieur qu'il ou elle a servi.
À Londres, elle n'avait jamais pris le métro et elle n'avait jamais quitté le West End. Elle vivait dans son monde, mais un monde qui était bien agréable, très policé, où on était heureux. Les employés étaient heureux.
Comment elle vous percevait? Comment elle vous traitait?
Elle me respectait beaucoup, mais je n'étais pas de son monde. Il y avait une barrière, il y avait des codes. C'était comme une espèce de pièce de théâtre. On portait le plateau du petit déjeuner dans la chambre. Il y avait tout un cérémonial. On ouvrait les rideaux le matin.
Les rideaux de la chambre?
Les rideaux de la chambre. Et c'est là que j'ai appris à dire madame est servie. C'était un petit peu difficile au départ. Mais on s'y fait. Et puis on apprend à servir dans l'argenterie.
Quand vous dites on y était heureux, c'était un plaisir de travailler pour cette femme ou...
Ben, c'était un plaisir parce que moi j'aime les choses bien faites et c'était... On avait un plaisir à faire des choses raffinées. Il y avait un résultat. Tout devait être parfait. De l'orange pressé le matin jusqu'au service du soir, tout devait se dérouler impeccablement bien. Voilà, fallait pas faire de vagues, en fait, c'est ça. C'était dans un monde un petit peu virtuel, où tout se passait bien. Où le monde extérieur, finalement, n'arrivait pas jusqu'à eux.
Comme un théâtre.
Comme un théâtre, tout à fait. C'est une pièce, chacun joue son rôle. Chacun connaît la place, sa place. On ne sort pas de son rôle.
Et elle travaillait?
Elle organisait les réceptions. Elle était dessinatrice de jardin. Donc ça, c'était son hobby. Donc elle avait créé une société avec un ami. Et une fois par semaine, elle jugeait les petits délits. Elle était juge. Mais c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié et qui avait l'humour british avec le sens de l'autodérision. Elle s'appelait elle-même Marie-Antoinette.
C'est vous, Célestine?
Oui, monsieur.
Célestine. J'aime beaucoup ce prénom, sincèrement. Mettez ça là.
Le journal d'une femme de chambre, Louise Buniel, 1964.
Mais il est un peu trop long, vous ne trouvez pas? Et même beaucoup trop long. Si vous voulez bien, je vous appellerai Marie. Marie, c'est très joli aussi, et c'est plus court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. C'est une habitude, et je crois bien qu'il me serait impossible d'y renoncer.
Monsieur prend combien de sucre?
2. Alors, ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Marie? C'est bien entendu?
Mais oui, monsieur.
Très bien.
Si monsieur le permet, je vais me retirer.
Non, attendez, ma petite Marie, attendez un peu. Vous avez un moment?
Je suis au service de monsieur.
Dites-moi, est-ce que vous aimez la lecture?
Oui, mais je n'ai pas beaucoup de temps pour lire.
Mais vous savez bien lire.
Ah oui, monsieur.
Vous savez, quelquefois, le soir, il m'arrive d'être un peu fatigué. J'aime bien qu'on me fasse de la lecture. Une jolie voix, c'est tellement agréable à écouter. Si vous voulez bien, nous allons faire une petite tentative. Vous connaissez Huysmans?
Non, monsieur.
C'est un excellent auteur, je l'aime beaucoup. Voilà, vous allez vous asseoir ici quelques instants et vous me lirez quelques lignes au hasard. Asseyez-vous. Lisez.
Puisque par le temps qui court, il n'existe plus de substance saine, puisque le vin qu'on boit et que la liberté qu'on proclame sont frelatés et dérisoires, puisqu'il faut enfin une singulière dose de bonne volonté pour croire que les classes dirigeantes sont respectables et que les classes domestiquées sont dignes d'être soulagées ou plaintes.
Marie, écoutez-moi, ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet? Oh, ne craignez rien, vous n'avez rien à craindre de moi, absolument rien. Vraiment, ça ne vous ennuie pas?
Non, monsieur.
Continuez.
L'horrible tête flamboie, saignant toujours, mettant des cailloux de pourpre sombre aux pointes de la barbe et des cheveux. Visible pour la Salomée seule, elle n'étreint pas de son morne regard les rosias.
Marie, quelle est votre pointure?
Comment, monsieur?
Votre pointure pour les chaussures?
35.
Une minute. Ah, c'est ça, la rose des vents. Voilà, chaque soir, quand vous viendrez me voir, je vous ferai mettre ces bottines. Cela m'évoque des souvenirs, vous comprenez? Pendant la journée, ce n'est pas la peine, mais le soir, vous me feriez plaisir. Un instant. Entrez.
Célestine. Je vous avais pourtant demandé de faire très attention à ça.
Mais madame, ce n'est pas ma faute. Je vais vous expliquer.
Vous n'expliquez rien du tout.
De quoi s'agit-il?
La lampe anglaise, elle a cassé le globe.
Mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Je n'aimais pas cette lampe.
J'espère que dorénavant, vous ferez plus attention.
Oui, madame.
Ouais, c'est toujours la même chose. Chaque fois qu'on essaye un peu de... Ouais, la mesquinerie. Bon, eh bien, ma petite Marie, qu'est-ce que vous voulez? C'est fini pour ce soir, ça suffit, vous pouvez partir. Merci.
Bonsoir, monsieur.
C'est incroyable dans ce métier, quand on change d'employeur, les mondes différents et la façon différente dont on peut être traité. Vraiment, ça, j'ai travaillé pour prince et princesse avec un protocole incroyable où on ne m'adressait pratiquement pas la parole.
Où ça?
Alors à Paris, et avec beaucoup, beaucoup de personnel. Et là, je n'étais que femme de chambre des appartements privés du prince qui ne s'adressait à moi qu'en cas d'extrême urgence. S'il avait besoin de me parler, mais que dans la pièce, il y avait le maître d'hôtel, il s'adressait au maître d'hôtel et lui disait « Vous direz à Martine » au lieu de me dire directement les choses. C'est-à-dire que, voilà, on ne pouvait pas parler à la femme de chambre si le maître d'hôtel était dans la même pièce. Et on se retrouvait un peu... comme dans les films « Le vestige du jour » ou « Gosford Park ». Avec ce petit personnel bien hiérarchisé, un peu cruel dans les relations entre personnel, un peu cruel, un peu la jungle où il fallait se montrer très fort pour ne pas être dévoré par les autres.
Par les autres, c'est-à-dire par le maître d'hôtel?
Alors c'est ça qui est le pire, c'est par le personnel lui-même qui organisait ces petites règles du jeu. Donc, si vous étiez femme de chambre, vous étiez moins bien considérée que le maître d'hôtel. Le cuisinier essayait aussi d'avoir un petit ascendant sur vous, parce qu'il était le cuisinier. Mais du côté du prince, là, il y avait... j'étais un meuble.
Vous avez tenu combien de temps, là-bas?
Un an. Je ne peux pas travailler pour quelqu'un que je n'apprécie pas ou que je ne respecte pas. Mais j'ai eu des postes où ça a été formidable, où j'ai eu des relations avec les gens pour un homme d'affaires en Suisse, où j'ai travaillé 5 ans pour lui, et cela, ça a été absolument extraordinaire. Il était très exigeant, mais on avait envie de lui faire plaisir, on avait envie que tout se passe bien, que sa maison soit bien tenue, parce que c'était un être humain, on avait l'impression de faire partie un peu de sa famille. Alors là, il m'emmenait avec lui en jet. J'avais une belle voiture de fonction intérieure cuir. J'avais l'impression d'être chouchoutée, d'être privilégiée.
Et ça, c'était agréable.
Et ça, c'était, oui, c'était valorisant. C'était valorisant. Et puis chez lui, j'ai appris ce qu'était l'art contemporain. Et là, je me suis régalée. C'était un manager, donc il a su me booster. C'était vraiment super. Ouais. J'étais à son service, oui, mais j'avais pas l'impression d'être comme ça, subalterne. J'avais l'impression de compter aussi pour lui.
Il vous demandait votre avis sur certaines questions?
Oui, oui. Souvent, on parlait politique, on parlait art. Une fois, quelqu'un lui envoyait une cassette, puisque comme il est connu, les gens essayent un petit peu de l'influencer. Il avait pas envie de l'écouter, il m'a demandé de l'écouter. Il m'a dit alors... Ça vous plaît? Je lui dis non. Il a pris la cassette, il a mis la poubelle. Il m'a fait confiance. Chez lui, j'étais sa gouvernante.
Et vous payez combien, ces employeurs?
En gros, j'étais payée entre 2000 et 2500 euros, logée, nourrie. Bon, il y a toujours un mais voilà, il fallait y aller, il fallait travailler. C'était pas toujours facile. Il disait des fois, oh, il a la rage, mais il fallait faire avec. Alors on se cache un peu dans la cuisine, quand c'est comme ça, on laisse passer l'orage. Et puis, c'était ma famille. Et il avait une autre propriété en France, et je m'entendais bien avec sa gouvernante aussi, son autre gouvernante. Et on parlait beaucoup d'eux, en fait. On parlait des enfants et des petits-enfants qui grandissaient. Et une fois, on s'est retrouvés toutes les deux à parler, et puis elle m'a dit, mais on ne parle que d'eux. On n'a plus de vie, pourquoi on ne parle pas de nous? Et en fait, c'est ça, on s'aperçoit qu'on vit souvent à travers eux, à travers nos employeurs. Et ça, c'est un peu le danger de s'oublier.
Vos bottines ne sont pas très propres, n'est-ce pas ?
Non, monsieur.
C'est très bien. Et vous aimeriez que je vous en montre d'autres ?
D'autres ? Oh, je crois qu'avec celle-ci.
Mais des vernis.
Hein ?
Des très, très vernis.
Ben oui, monsieur.
Et en cuir jaune.
Oh, en cuir jaune.
Comment, mais ce sont les plus belles en cuir jaune. J'en ai, vous verrez, vous finirez par les aimer plus que les autres.
Je vous remercie, monsieur.
Donnez-moi la main et venez vous asseoir un moment. Tout ça doit vous paraître un peu bizarre, non? Mais enfin, à mon âge, bien des petites choses sont permises, non? Tenez, pour vous donner un exemple. Vos bottines sont sales, n'est-ce pas? Eh bien, je ne trouve pas convenable qu'une femme cire ses bottines, non. Je respecte beaucoup les femmes, Marie. Et ces chères petites bottines, c'est moi qui les cirerai. Là, maintenant, levez-vous un peu et marchez. Marchez un peu par là. S'il vous plaît, retroussez un peu vos jupes. Là, allez, marchez, marchez. Allez, allez, marchez. Allez, allez. Que je les vois remuer un peu, ces petites bottines. Que je les vois vivre. Ma petite rose des vents rediviva. Montrez-moi la semelle. Oh, elle est un peu trouée, n'est-ce pas? Eh bien, je vous les réparerai. Elles seront comme neuves. Là, c'est bien, Marie. Là, maintenant, asseyez-vous, Marie. Venez. Asseyez-vous. Et maintenant, vous allez me les donner, vos petites bottines. Tout de suite. Je vous les prends, vous voyez? Et je vais les emporter avec moi. Les chères petites bottines. Qu'est-ce que c'est?
C'est moi, père.
Qu'est-ce que tu veux?
Est-ce que vous voulez prendre le petit déjeuner avec moi?
Non!
Voulez-vous qu'on vous le montre?
Non, et je vous prie de me laisser tranquille.
Martine, vous parlez au passé.
Oui, parce que... voilà, c'est ça. Et puis bon, ce monsieur, il m'a marqué, puis ça me manque beaucoup. Là, je suis, voilà, ben, je suis à la recherche d'un emploi, parce que j'ai voulu me rapprocher de ma fille qui est sur Paris.
C'était la Suisse.
C'est après la Suisse, voilà. Et puis, ben, j'ai pris un emploi. Alors, ce métier, c'est le paradis ou l'enfer. Ben, là, ça a été l'enfer. Chez une princesse qui m'a harcelée, qui m'a fait craquer. Là, c'est le pire du pire. Voilà. C'est des gens qui, on est un petit peu leur jouet, on est leur souffre-douleur. On est la domestique où on peut se faire les nerfs, qu'on essaye de manipuler. Le pire du pire.
Une princesse, mais qui vient de d'où ?
Une princesse. Donc, évidemment, je ne peux pas... On a des clauses de confidentialité et puis même, c'est le propre du métier, c'est la confidentialité. Je ne dois absolument pas parler de la vie de mes employeurs puisque je suis un peu détentrice de certains secrets, donc je ne dois absolument pas les divulguer. Moi, je trouve ça tout à fait normal. Ils doivent avoir confiance en nous, on ne doit pas les trahir.
Même quand ils vous maltraitent ?
Même quand ils me maltraitent, non. Je cherche et peut-être aussi dame de compagnie, puisque j'ai 60 ans et qu'on me dit que maintenant, à 60 ans, c'est trop vieux pour travailler, alors que j'ai de la maturité, c'est justement là que j'ai de l'expérience et que j'ai encore de l'énergie à revendre.
Merci, Martine. Merci Aline, merci Rodolphe, c'était la joie de servir la deuxième partie du reportage d'Anaël Verzo. Merci également à Laurent Pascal de la société Elia, Patrick Sevin de Prestige Service et Véronique Mongin. a signalé du ballet, un essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité. C'était chez Raison Agir en 2011, de François-Xavier de Wetter et Sandrine Rousseau. Et puis évidemment, lire Octave Mirbeau, le journal d'une femme de chambre, et voir le film de Louise Buñuel avec Jeanne Moreau. Ah bon. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Programme, émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission également sur le site là-bas.org et aller voir la page Facebook de là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Anthony Thomasson et Pauline Laverdure. C'est Lucia Kuhn et Franck Adhérère qui ont réalisé cette émission préparée avec Grégory Salomonovitch. Et Marion Dupas attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37.
Après la guerre est déclarée, France Inter présente Main dans la main en DVD, Blu-ray et VOD. Un sortilège étrange unit deux êtres que tout oppose au point qu'ils ne peuvent pas se séparer. Une comédie drôle et poétique avec Valérie Lemercier et Jérémy Elkaïm. Main dans la main de Valérie Donzelli en DVD, Blu-ray et VOD France Inter.
Radio France, partenaire de la 100e édition du Tour.
Dès maintenant et jusqu'à l'arrivée sur les Champs-Élysées, les radios de Radio France vous font vivre un Tour de France exceptionnel. Émission spéciale inédite, portrait de légende, découverte du patrimoine, partez avec nous sur toutes les routes du Tour.
La 100e édition du Tour, un événement à vivre dès maintenant sur les radios de Radio France, avec Le Parisien et Aujourd'hui en France. Plus d'infos sur radiofrance.fr.
À demain, 15h, pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Maxime Deps. Salut.
Et tout d'abord, cette fusillade en pleine rue cet après-midi à Istres, dans les Bouches-du-Rhône, avec un bilan qui s'alourdit. Une troisième personne a succombé à ses blessures. Une autre est actuellement hospitalisée. Les faits se sont donc produits sur la voie publique. Et l'émoi sur place est total. Isabelle Dor.
C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a ouvert le feu dans la rue d'un quartier résidentiel proche du centre-ville. Selon les premiers témoignages, il était armé d'une arme de guerre ou d'un fusil à pompe et il s'est mis à tirer à l'aveuglette, comme cela se produit quelquefois aux États-Unis. Il aurait tiré, sans raison apparente, sur des passants qui se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Il a ensuite continué son chemin jusqu'à un rond-point où des policiers l'ont interpellé. Il n'a pas opposé de résistance. Ce jeune homme, originaire de Istres, était connu des services de police pour des délits mineurs et notamment des escroqueries. Marseille, Isabelle Dor, France Inter.
Encore s'il s'agit là sans doute d'un règlement de compte, le président du parc naturel régional de Corse a été abattu cet après-midi également par un ou plusieurs tireurs sur la route de l'aéroport d'Ajaccio. Jean-Luc Schiappini, qui a été atteint d'au moins une balle dans la tête, est la 10e victime d'homicide sur l'île depuis le début de l'année. La droite avait crié au scandale et demandé une réaction de la garde des Sceaux. Christiane Taubira annonce cet après-midi au Sénat avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature dans l'affaire du mur des cons du syndicat de la magistrature. Le CSM, instance de nomination et de sanction des magistrats, devra apprécier s'il y a eu manquement à la déontologie. Dans l'actualité à l'étranger, une situation sous tension au Proche-Orient. Un drone venant du Liban a été abattu aujourd'hui par l'armée israélienne au nord de l'État hébreu. Une incursion jugée à l'instant très grave par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Une facture qui grossit, l'opération militaire au Mali a déjà coûté plus de 200 millions d'euros à l'État. Chiffre publié cet après-midi par le ministère de la Défense et appelé à évoluer encore. 3800 soldats sont toujours déployés sur la zone de conflit. Pendant ce temps, deux jours après l'attentat contre l'ambassade française à Tripoli, le président libyen reconnaît aujourd'hui qu'il y avait des failles de sécurité autour de l'ambassade. L'explosion à la voiture piégée qui a blessé deux gendarmes n'a pour l'heure toujours pas été revendiquée. Le Mali, la Libye, pendant ce temps, François Hollande est lui en Chine, a prêché la bonne parole de la France, le chef de l'État qui se donne un peu moins de 48 heures le temps de son voyage pour convaincre Pékin d'investir et d'ouvrir son marché aux entreprises françaises. Première victoire, la signature à la mi-journée d'une promesse de vente de 60 avions Airbus à une compagnie chinoise.
Viva la femme!
Les femmes,
viva
toute une histoire.
La femme.
Demain, je recevrai le professeur René Friedman, le pionnier en France de la procréation médicalement assistée, accoucheur de bébés, mais aussi grand défenseur des droits des femmes. Et avec la journaliste Ala Kodmani et Lamis, jeune blogueuse syrienne, nous parlerons des femmes dans la guerre en Syrie. À demain.
Une émission de Stéphanie Duncan, ce vendredi à partir de 9h. France Inter.
La voix est libre.
16h04 bientôt sur France Inter. Tout de suite, on retrouve Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Maxime Debs. Et vous, c'est à 17h qu'on vous entend pour les nouvelles informations, j'espère joyeuses quand même, de temps en temps. Carrefour de Lodéon. Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous. Félix Mendelssohn paraît de nouveau au disque, c'est une réédition remasterisée avec le quatuor tchèque Talisch, une très belle interprétation de ses œuvres très diverses selon les âges de Félix Mendelssohn, qui a toujours été considéré comme un enfant très doué, surdoué même, et peut-être un peu gâté. Néanmoins, il y a tant de talent chez ce jeune homme, âgé de 14 ans par exemple, dans son tout premier quatuor à cordes qui date de 1823. On sent une plénitude, une insouciance relative, avec quand même des passages un tout petit peu plus anxieux. Enfin, il est vrai que ça lui coulait des mains, cette musique, mais ça va devenir assez différent par la suite, parce qu'il va devenir aussi, lui, de plus en plus scrupuleux et beaucoup retouché. Pour l'instant, il est là dans la joie de vivre, il se laisse porter par le rayonnement intime de ceux qui croient que la vie dure toujours. Thank you. Allegro moderato, le premier mouvement du premier quatuor à cordes de Félix Mendelssohn, âgé de 14 ans à l'époque, je le rappelle, interprété par le quatuor Talisch. Et voici un peu plus tard, le deuxième quatuor, Mendelssohn a 18 ans, il vient d'apprendre la mort de Beethoven, et c'est un choc, peut-être le premier grand choc de son existence. Et là, il exprime peut-être plus encore de sa nature profonde, de sa nostalgie, qui ne paraissait pas, n'affleurait pas trop avant. Et là, on entend par exemple dans l'intermezzo, qui est bien doux, mais enfin comme un chant triste, qui va se retrancher derrière un passage un peu plus technique, un peu plus fouillé, écrit. Mais cette nostalgie, elle est bien prégnante. Deuxième quatuor de l'opus 13.